Contes et nouvelles de Guy de Maupassant. Le donneur d'eau bénite. Ce texte parut le 10 novembre 1877 dans la revue pittoresque et illustrée La Mosaïque. Guy de Maupassant utilisa comme signature pour ce conte le pseudonyme de Guy de Valmont. Le nom de Valmont renvoie bien sûr au personnage de Laclos, le vicomte de Valmont des liaisons dangereuses, que Maupassant appréciait particulièrement. Il habitait autrefois une petite maison, près d'une grande route à l'entrée d'un village. Il s'était établi charron, après avoir épousé la fille d'un fermier du pays. Et comme ils travaillaient beaucoup tous les deux, ils amassèrent une petite fortune. Seulement, ils n'avaient pas d'enfants, ce qui les chagrinait énormément. Enfin, un fils leur vint. Ils l'appelèrent Jean, et ils le caressaient l'un après l'autre, l'enveloppant de leur amour, le chérissant tellement qu'il ne pouvait rester une heure sans le regarder. Comme il avait 5 ans, des saltimbanques passèrent dans le pays et établirent une baraque sur la place de la mairie. Jean, qui les avait vus, s'échappa de la maison, et son père, après l'avoir cherché bien longtemps, le retrouva au milieu des chèvres savantes et des chiens faiseurs de tours, qui poussaient de grands éclats de rire sur les genoux d'un vieux paillasse. 3 jours après, à l'heure du dîner, au moment de se mettre à table, le charron et sa femme s'aperçurent que leur fils n'était plus dans la maison. Ils le cherchèrent dans leur jardin, et comme ils ne le trouvaient pas, le père, sur le bord de la route, cria de toute sa force. « Jean ! Jean !» La nuit venait. L'horizon s'emplissait d'une vapeur brune qui reculait les objets dans un lointain sombre et effrayant. 3 grands sapins, tout près de là, semblaient pleurer. Aucune voix ne répondit, mais il y avait dans l'air comme des gémissements indistincts. Le père écouta longtemps, croyant toujours entendre quelque chose, tantôt à droite, tantôt à gauche, et la tête perdue, il s'enfonçait dans la nuit en appelant sans cesse son fils. « Jean ! Jean !» Il courut ainsi jusqu'au jour, emplissant les ténèbres de ses cris, épouvantant les bêtes rôdeuses, ravagées par une angoisse terrible et se croyant fou par moments. Sa femme, assise sur la pierre de sa porte, sanglotait jusqu'au matin. On ne retrouva pas leur fils. Alors, ils vieillirent rapidement, dans une tristesse inconsolable. Enfin, ils vendirent leur maison, et ils partirent pour chercher eux-mêmes. Ils questionnèrent les bergers sur les côtes, les marchands qui passaient, les paysans dans les villages et les autorités des villes. Mais il y avait longtemps que leur fils était perdu. Personne ne savait rien. Lui-même avait sans doute oublié son nom maintenant, et celui de son pays. Et il pleurait, n'espérant plus. Bientôt, ils n'eurent plus d'argent. Alors, ils se louèrent à la journée dans les fermes et dans les hôtelleries, accomplissant les besognes les plus humbles, vivant des restes des autres, couchant à la dure et souffrant du froid. Mais comme ils devenaient très faibles à force de fatigue, on n'en voulut plus pour travailler, et ils furent obligés de mendier sur les routes. Ils accostaient les voyageurs avec des figures tristes et des voix suppliantes, imploraient un morceau de pain des moissonneurs qui dînent autour d'un arbre à midi dans la plaine, et ils mangeaient silencieusement, assis, sur le bord des fossés. Un hôtelier auquel ils racontaient leur malheur leur dit un jour « J'ai connu aussi quelqu'un qui avait perdu sa fille. C'est à Paris qu'il l'a retrouvée. » Ils se mirent tout de suite en route pour Paris. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande ville, ils furent effrayés par son immensité et par les multitudes qui passaient. Ils comprirent cependant qu'ils devaient être au milieu de tous ces hommes, mais ils ne savaient comment s'y prendre pour le chercher. Puis, ils craignaient de ne pas le reconnaître, car il y avait alors 15 ans qu'ils ne l'avaient vu. Ils visitèrent toutes les places, toutes les rues, s'arrêtèrent à tous les attroupements qu'ils voyaient, espérant une rencontre providentielle, quelque prodigieux hasard, une pitié de la destinée. Souvent, ils marchaient à l'aventure devant eux, l'un contre l'autre, ayant l'air si triste et si pauvre qu'on leur faisait l'aumône sans qu'ils l'eussent demandé. Chaque dimanche, ils passaient leur journée à la porte des églises, regardant entrer et sortir les foules et cherchant sur les figures quelques ressemblances lointaines. Plusieurs fois, ils crurent le reconnaître, mais toujours, ils s'étaient trompés. Il y avait au seuil d'une des églises où ils revenaient le plus souvent, un vieux donneur d'eau bénite qui était devenu leur ami.